Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
BFM Business. Vos placements, nos conseils. BFM Bourse. Guillaume Sommerer.
C'est l'émission qui tente d'enrichir vos après-midi et de vous enrichir surtout. Bienvenue à tous, on va aborder l'ensemble de vos placements, de vos investissements au rythme des marchés jusqu'à 18h. Des marchés qui redressent la tête. Aux États-Unis, les trois indices qui avaient ouvert dans le rouge progressent finalement après des propos dans le Wall Street Journal, d'un certain nombre de membres de la Fed, s'inquiétant du rythme du resserrement monétaire. Ça permet une détente donc des taux américains qui repassent sous les 4,3% et les indices US qui en profitent donc et qui accélèrent désormais à la hausse. En Europe, on est en train du coup de limiter nos pertes. On perdait près de 2% tout à l'heure sur le CAC. Là, on abandonne plus que 0,8%. Mais c'est vrai qu'on a pas mal de vents contraires. Séance en plus très volatile. Séance des trois sorcières, en effet, comme chaque troisième vendredi du mois. On parlera du Royaume-Uni puisqu'on a un retour des tensions. La devise britannique repart nettement à la baisse après la démission annoncée hier de Liz Truss. Les publications des entreprises, par ailleurs, ne soutiennent pas le marché. Au contraire, elles pèsent. Aujourd'hui, ces publications sur la tendance aux États-Unis, on voit le titre Snap tomber. Littéralement tombé, plongé de 30% après un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires. Donc Snap aujourd'hui véritablement massacré sur le marché américain, ce qui montre une nouvelle fois cette pression autour des réseaux sociaux qui peinent à attirer de l'investissement publicitaire. Et puis en France, sur le marché français, on voit ces valeurs qui reculent le plus. L'Oréal, déception sur l'activité en Chine, et L'Oréal nous parle d'une tendance des consommateurs à s'orienter de plus en plus vers la grande consommation au détriment du haut de gamme. L'Oréal, lanterne rouge du CAC, et Pernod Ricard qui souffre aussi, c'était déjà le cas hier après une publication qui n'a pas été appréciée. On va en parler bien sûr de toutes ces publications avec nos experts. Aude Kersulec sera avec nous notamment dans un instant depuis la tour Euronext. Et puis on parlera tout à l'heure aussi, comme chaque jour à 16h30, des cryptos. Nos pros des cryptos seront au rendez-vous et on parlera notamment du potentiel du Bitcoin avec un halving à venir. On vous expliquera ce qu'est un halving, il aura lieu en 2024, et on vous expliquera aussi pourquoi ce halving du Bitcoin sera sans doute différent des autres. Rendez-vous dans moins d'une demi-heure avec nos pros des cryptos. On est à vos côtés, on joue dans votre camp chaque jour pendant 3 heures, et tout de suite on va faire un point sur l'état de la France, l'état des grèves surtout, l'actu du jour en direct. Claire Sergent nous rejoint.
BFM Business, l'info éco.
À la une, Guillaume, vous le disiez, la CGT qui appelle à 2 journées de grève et de mobilisation supplémentaires, des grèves interprofessionnelles à l'échelle du pays, le 27 octobre et le 10 novembre. Le syndicat dit ne rien vouloir lâcher et demande des hausses de salaire général. FSU et Solidaires dans l'éducation pourraient rejoindre le mouvement le 10 novembre. Ils n'avaient pas participé mardi. Dans l'actualité également, Emmanuel Macron est toujours à Bruxelles avec les 26 autres chefs de gouvernement européens. La feuille de route pour endiguer la flambée des prix de l'énergie se précise. On écoute le président.
Le défi qui était le nôtre et qui reste le nôtre, il est double. Faire baisser les prix dès aujourd'hui et nous mettre en capacité d'avoir des mécanismes pour préparer l'hiver prochain, qui ne sera aucunement plus facile que l'hiver que nous sommes en train de passer, au contraire.
Emmanuel Macron qui annonce par ailleurs que la France se retire de la charte de l'énergie, traité très décrié, qui est accusé de retarder la transition écologique des pays. Elle emboîte le pas de l'Espagne, la Pologne et les Pays-Bas. L'Union européenne affiche en revanche un visage uni face à Pékin. Pas de confrontation systématique, mais pas de naïveté non plus. Les 27 veulent davantage de réciprocité et un rééquilibrage entre Pékin et Bruxelles. Le chancelier allemand Olaf Scholz se rendra en Chine à début novembre. Au Royaume-Uni, qui, pour succéder à Liz Truss, poussée à la démission après seulement 45 jours, un nom s'impose aujourd'hui, notamment dans la presse britannique, c'est celui de Boris Johnson. L'ex-premier ministre pourrait faire son grand retour au 10 Downing Street. Il est donné favori à égalité avec Rishi Sunak, l'ancien ministre des Finances. Et en Italie, Giorgia Meloni se dit prête à former un gouvernement aussi vite que possible. Elle est à la tête d'une coalition de droite avec Matteo Salvini de la Ligue et Silvio Berlusconi de Forza Italia. Et enfin, dans l'actualité des entreprises, la grande forme de Renault au troisième trimestre, le constructeur automobile affiche un chiffre d'affaires de près de 10 milliards d'euros, en hausse de plus de 10%. Le groupe, toujours touché par des difficultés de production et des pénuries de puces, bénéficie d'un fort effet prix qui permet de couvrir l'inflation. Le carnet de commandes reste plein, tiré notamment par les ventes de véhicules hybrides et de SUV.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Merci Claire, et vous nous accompagnez tout au long de cette fin de journée pour suivre l'actu en direct. Aude Kersulec, on y arrive, depuis la Tour Euronext. Ravi de vous retrouver, Aude. On rejoindra aussi dans un instant Grégory Volokhin, qui lui nous attend depuis New York, d'autant qu'à Wall Street, la tendance redevient positive et favorable. On a un retournement à la hausse des indices américains. Ça nous aide, ça nous soutient un peu aussi en Europe, Aude.
Oui, on réduit quelque peu nos pertes, ça c'est vrai, depuis une demi-heure. On est à moins 0,5% maintenant sur le CAC 40, repassé largement au-dessus hein, des 6000 points, 6056 points. C'est du même acabit hein, sur les marchés allemands notamment, où on est à l'équilibre même, et sur l'Eurostox où on ne perd plus que 0,17%. Alors grâce à Wall Street, c'est vrai qu'on est repassé dans le vert, mais ça reste une séance volatile très technique hein, avec ce débouclage de position. C'est la séance des trois sorcières. On a aussi des taux souverains qui vraiment continuent d'être à leur plus haut niveau. Donc là aussi, ça pourrait entraîner de la volatilité, notamment sur des valeurs de croissance. Le taux français, là, qui est tout juste à 2,99% pour l'obligation française à 10 ans, ou encore de 4,25% pour le taux américain. On a le marché des devises qui tangue un peu aussi, avec le dollar qui se renforce encore contre la devise britannique, qui est finalement beaucoup plus affectée qu'hier, puisqu'on est repassé tout juste à 1,12$, et aussi contre le yen qui est là vraiment à un plus bas historique, 151 yens pour 1 dollar. Et sur le CAC 40, eh bien, on a des valeurs qui sont revenues dans le vert. C'est le cas notamment de ArcelorMittal qui a fait une belle remontée. On est maintenant à 2,9%, 23,45€. Et du côté du rouge, eh bien, on retrouve les valeurs du luxe qui perdent, et pas qu'un peu. Hein. L'Oréal, moins 5%, 312€. Alors, c'est pas faute d'avoir souligné que c'était des trimestres solides que nous avaient publié nos calls français. Des croissances à deux chiffres. Mais voilà, du côté de L'Oréal, si on regarde la croissance organique hors taux de change, eh bien, on s'aperçoit que c'est quand même du plus 9%, donc un petit peu moins, et surtout que la division luxe ralentit nettement et que la Chine non plus n'a pas totalement repris. Voilà ce qui est sanctionné aujourd'hui par les investisseurs, de même que Kering qui perd maintenant 2%. C'est sa trop grande dépendance à Gucci. Gucci qui croit moins vite que l'ensemble du groupe et qui n'a pas prévu d'ailleurs de hausse de prix à venir. Donc c'est la capacité à répercuter les hausses des prix là aussi qui est mise en avant. Kering qui se négocie maintenant à 460€. Pernod Ricard qui perd aussi 3%, ou encore Essilor Luxottica, moins 2,8%, malgré la hausse des ventes là du côté de l'Asie, ou encore la confirmation de prévisions pour le reste de l'année. Et sur le marché allemand, là on va voir, c'est un gros profit warning pour Adidas, une belle baisse de prévision. On vise maintenant une stabilité des ventes à devise constante, alors qu'on devait monter de 5 à 10%. La marge d'exploitation, ce serait 4% au lieu de 7%, et un abaissement aussi sur le résultat net qui tomberait à 500 millions contre 1,3 milliard. Et bien Adidas baisse cet après-midi de 9% sur le marché allemand.
Avalanche de publications et les marchés qui glissent avec ces publications. Merci Aude, on va suivre tout cela bien sûr encore tout au long de l'après-midi. On vous retrouvera à la clôture des marchés tout à l'heure en direct. Le CAC 40 perd donc en ce moment 1,2%. Aux États-Unis, Aude, il y a encore pire. Le titre Meta qui chute, qui plonge, qui tombe littéralement de 30%. On va rejoindre tout de suite sur place à New York, là où ça se passe, Grégory Volokhin.
BFM Business, BFM Bourse, USA Today.
Grégory Volokhin en direct avec nous donc depuis Manhattan. Bonjour Grégory, il est ici en France dans l'Hexagone, 16h11, donc 10h11 chez vous. Et ce titre Snap, donc qui, après la publication de ses résultats, surtout de la croissance ralentie de son chiffre d'affaires, tombe littéralement de 30% en ce moment. Les marchés, ils vont-ils un peu trop fortement sur Snap, ou la sanction est justifiée ?
Écoutez, c'est assez difficile à dire que la sanction est justifiée, vu que le titre, maintenant, pour l'année, est pratiquement en baisse de 90%. Donc, ça voudrait dire qu'il n'existe plus. Ce n'est pas vraiment le cas. Le cas, c'est quoi? Le cas, en fait, c'est que Snap déçoit au niveau de la croissance de ses revenus. On attendait une croissance de 9%. Ils disent qu'il n'y aura pas de croissance des revenus au prochain trimestre. C'est quelque chose, pour ce genre de titre, qui n'est pas pardonnable. Ils disent aussi qu'ils souffrent, évidemment, de la conjoncture, puisqu'ils disent que les revenus publicitaires baissent plus que prévu. Leurs revenus par utilisateur baissent aussi plus que prévu. Donc, tout ça, évidemment, on peut l'expliquer par des chiffres, mais je dirais, il y a surtout une chose, et ça, évidemment, Snap le dit pas, et même les analystes le disent pas, c'est que Snap, ce n'est plus vraiment à la mode. Et attention, avec ce genre de compagnies, quand elles sont plus vraiment à la mode, les premiers à retirer leur argent sont les derniers publicitaires, d'une certaine façon, à avoir mis de l'argent dans la compagnie. Alors, qu'est-ce qui est à la mode? Vous allez me demander, BeReal. BeReal, plus de 100% de download sur l'App Store. On prend une photo une fois par jour de soi-même dans des situations plutôt banales, hein, en train de manger son croissant du matin. Ça, c'est ce que les jeunes font. Alors, l'autre leçon, c'est que, je dirais, le goût des adolescents, qui sont quand même 90% des utilisateurs de Snap, change très, très rapidement. Maintenant, il faut quand même mettre les choses en place. Hein. C'est pas fini, parce que quand on demande quelle est la préférence au niveau des réseaux sociaux pour les adolescents, évidemment, c'est TikTok qui enlève énormément, non seulement de publicité, mais surtout de temps passé sur les réseaux sociaux à sa compétition. Mais il y a encore quand même TikTok qui est préféré, 38%, et Snap est deuxième. 30% préfèrent Snap et 20% préfèrent Instagram. Tout ça pour dire que c'est très difficile à la fois de contenter la mode, à la fois de contenter les adolescents, à la fois de contenter les publicitaires. Et c'est pour ça que la grande question n'est pas Snap, qui n'est pas une compagnie, je dirais, qui est tellement importante. La grande question, ça sera de voir Meta la semaine prochaine, la compagnie parente de Facebook, parce que là, on parle d'un des géants de la côte au niveau des réseaux sociaux. Et phénomène de mode n'est pas vraiment en faveur de Meta. Pas besoin de parler de Facebook, où en fait, il n'y a plus que nos grands-mères qui sont. Mais on peut aussi parler d'Instagram, où de moins en moins les jeunes passent du temps. Et puis l'autre chose, ils essayent de compenser ça avec ce qu'ils appellent Reels. Là, je parle toujours de Meta, hein, qui sont des petits films. C'est ce que fait TikTok avec un immense succès. Sauf que les jeunes passent 10 fois moins de temps sur Reels que sur TikTok. Donc, c'est difficile pour tout le monde, pour le moment, dans ce monde des réseaux sociaux, sauf pour TikTok. Donc, il faudra voir comment Meta souffre. Si Meta souffre, je dirais ça, c'est un test important la semaine prochaine.
Seules nos grand-mères sont sur Facebook. Ah, je suis une grand-mère, alors Grégory, je suis encore sur Facebook, moi. Pas vous?
En fait, non, j'ai jamais été vraiment sur Facebook. J'ai toujours eu les mêmes 8 amis depuis une bonne dizaine d'années.
Twitter, vous êtes sur Twitter. On vous suit d'ailleurs régulièrement. Twitter, sur lequel d'ailleurs Elon Musk est en train, ou s'est exprimé ces dernières heures, en expliquant qu'il allait licencier 75% des employés. Bon, on va y revenir dans un instant. Juste, puisqu'on parle de Twitter, aussi cette confusion. Le titre tout à l'heure avant bourse perdait jusqu'à 15% sur une fake news. Fake news expliquant que le deal entre Elon Musk et Twitter serait soumis à la sécurité nationale américaine, le CFIUS. Qu'est-ce que le CFIUS? Pourquoi cette fake news? Qu'est-ce que la réaction de marché nous dit?
C'est une fake news qui aurait pu être une vraie news. Pourquoi? Si on réfléchit, CFIUS, qu'est-ce qu'ils font? C'est le comité de régulation des investissements étrangers aux États-Unis. Donc, chaque fois qu'une compagnie étrangère investit dans une compagnie américaine, CFIUS, si c'est un gros deal, le regarde. Vous allez me dire, c'est Musk qui rachète Twitter, c'est pas une compagnie étrangère. Mais parmi les gens qui soutiennent Musk, qui vont amener de l'argent pour racheter Twitter, vous avez le prince Al-Walid, vous avez Binance, la compagnie chinoise. Donc, on peut faire le cas qu'il y a des investisseurs étrangers importants qui vont rentrer dans le capital de Twitter. Ça, c'est une chose. L'autre chose, on peut aussi dire que Elon Musk n'est plus tellement en odeur de sainteté à Washington. Pourquoi? C'est ça le problème. C'est qu'il a dit, il a eu peut-être des propos un peu gentils sur Poutine, mais ça le regarde. Mais surtout, il a dit, écoutez, moi, je donne Starlink gratuitement en Ukraine. j'ai déjà dépensé 80 millions de mon argent pour ça, je ne sais pas combien de temps je peux continuer à payer de ma poche. Et ça, le gouvernement américain, qui soutient à bout de bras avec des coûts de milliards de dollars le combat des Ukrainiens, n'apprécie pas beaucoup de la part de Elon Musk. Donc je dirais, il y a des tas de courants qui auraient pu être vérifiés par cette enquête. Pour le moment, je dis bien, il n'y a pas d'enquête, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas.
Et Elon Musk, donc, qui s'est aussi exprimé sur sa volonté de licencier 75% des employés de Twitter. Est-ce qu'il faut le prendre au sérieux? Pourquoi dit-il cela? Pourquoi avance-t-il ce chiffre d'un licenciement de 75% des effectifs?
Mais pour le moment, on entend que le deal devrait être clôturé le 27, c'est-à-dire la fin de la semaine prochaine. Alors pourquoi il avancerait ce genre de chiffres? Pour faire peur? Non, certainement pas. Ça serait peut-être une façon d'impressionner les personnes avec qui il est en train de négocier. Et s'il veut impressionner ses employés ou ses cadres de Twitter, c'est juste pour une chose, peut-être encore qu'il espère baisser le prix d'achat. Mais pour le moment, en tout cas, c'est peut-être des souhaits de Musk. Mais s'il rachète Twitter, et pour le moment, ça a l'air d'être le cas, ça sera en payant $54.20, ce qui était prévu dans le contrat initial.
Les autres publications du jour, les autres grandes annonces d'entreprise. Ce titre-là perd 4%. American Express, que retenir de la publication d'Amex?
Oui, on retient que c'est une bonne publication, c'est une excellente publication, avec une hausse des profits au-dessus des estimations. On cherche la petite bête et c'est normal. C'est normal, surtout dans les compagnies qui sont quand même exposées à la consommation. Alors, la petite bête, elle est tout simple. C'est ce qu'ils appellent les provisions pour prêts délictueux. C'est quand quelqu'un ne peut plus payer sa carte de crédit. En face, vous avez Bank of America qui doit prendre des provisions. Mais sur le trimestre, ils prennent 800 millions de dollars de provisions. Pour situer ça, le même trimestre de l'année dernière, tout simplement, ils avaient retiré des provisions, donc c'était devenu un gain de 300 millions. Donc là, il y a un petit problème, c'est clair. Ils disent quand même que pour eux, et ça c'est aussi intéressant, le comportement de leurs clients n'a pas du tout changé. Est-ce que ça nous donne une lecture de la consommation? Ben, je vous dirais, le client American Express, c'est du client haut de gamme, il faut vraiment le dire, hein. Vous avez beaucoup de cartes American Express qui peuvent vous coûter entre 100 et 500 dollars par année rien que pour avoir la carte dans sa poche. Donc, c'est les gens qui sont les moins affectés par l'inflation. C'est normal que pour le moment, leur comportement n'ait pas changé au niveau de la consommation. Donc, c'est pas la panique, je dirais, du côté de American Express. Mais toutes les compagnies vont devoir, en fait, augmenter leurs provisions d'une façon ou d'une autre, parce que des prêts délictueux, quand vous avez maintenant des taux d'intérêt qui montent si rapidement et une économie qui, en principe, devrait ralentir fortement, il y en aura sûrement de plus en plus.
En effet, c'est ce qu'anticipe de plus en plus le marché toujours extrêmement fébrile. D'ailleurs, Bank of America publie son enquête sur les flux. Que nous dit cette enquête face au marché? Comment les investisseurs agissent-ils, Grégory?
Ça donne toujours une bonne image. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que pour les fonds européens, on en est au 36e mois continuel ou bout à bout de décollecte. Ça fait 36 mois que les Américains, tout simplement, vendent des fonds européens ou retirent leur argent de fonds européens.
Grégory, 36, ça, c'est une chose. 36 mois ou semaines?
Non, 36 semaines, c'est exactement. Ça, voilà. Non, je m'emballe, hein, 36 mois. 36 semaines, bravo, bien pris. Autrement, qu'est-ce qu'ils disent? Ben, ils disent que quand même, il y a eu du cash assez important qui est revenu sur les fonds. Il y a eu pratiquement 12 milliards de dollars de cash, mais ça, c'est uniquement au détriment de quoi? Des fonds obligataires, où il y a eu 12 milliards pratiquement de sorties, et des fonds aussi en or. Et puis, ils disent quel est le style qui a attiré, donc avec l'argent nouveau, parce que l'argent nouveau, tout confondu, il y en a eu aussi. C'est les large caps. Ça a été les caps plutôt exposés à la technologie. Ça a été les stock value. Et qu'est-ce qui a le plus souffert? Les small caps et tout ce qui est matériel, c'est-à-dire le cuivre, l'or, l'acier, etc., etc. Donc oui, ça donne une petite image ponctuelle, rien de particulièrement surprenant, mais il faut toujours savoir quand même que le flux des Américains, ça compte énormément pour beaucoup de marchés, et particulièrement pour les marchés européens.
36 semaines de décollecte sur l'Europe. Merci Grégory Volokhin avec nous depuis New York en direct chaque jour. Merci beaucoup. Wall Street qui progresse. Le S&P gagne 1%, le Nasdaq plus 0,7%. Et en Europe, on limite un peu nos pertes, moins 0,7% sur le CAC. En cette séance des trois sorcières, séance toujours plus technique, c'est chaque troisième vendredi du mois qu'expirent en effet les contrats à terme et options. Ça vient renforcer les phénomènes de volatilité. Moins 0,7% sur le CAC, 6038 points.
BFM Business, BFM Bourse, thème d'investissement.
On vous propose régulièrement d'investir dans les thèmes d'avenir. Évidemment, la santé en fait partie. On va aborder cette thématique santé à travers les biotech. Sacha Pouget vient de nous rejoindre, directeur associé de Biomed Impact. Bonjour.
Bonjour Guillaume.
Bienvenue Sacha. On va parler donc santé et biotech. Les grands indices perdent depuis le début de l'année plus de 20%. Et les biotech, c'est pareil, c'est pire, c'est mieux, enfin mieux que le reste du marché ?
On va dire que c'est pire, mais c'est assez global. Donc en France, on perd environ 30%. Depuis le début de l'année sur l'ensemble du secteur biotech et medtech qui réunit au total 80 sociétés. On est à moins 40% plus précisément sur les sociétés d'innovation dans le médicament, à savoir les biotech, et on est à moins 25% pour les medtech qui sont dans les dispositifs médicaux. C'est aussi ce qu'on observe du reste en Europe, dans le reste de l'Europe, mais aussi aux États-Unis. On perd 30% également aux États-Unis. On a perdu jusqu'à moins 65% aux États-Unis par rapport au pic de mai-juin 2021. Donc, wow. On revient de loin. Par contre, ça a commencé à rebondir aux États-Unis à la faveur de mouvements de M&A, aussi de bonnes annonces de la part de certaines sociétés comme Biogen qui a par exemple fait une très belle annonce dans un traitement pour Alzheimer. Donc on voit quand même qu'il y a certains mouvements et on a pu le voir à la Bourse de Paris avec Sensorion cette semaine, qui a pris 22% à la suite du rachat d'un concurrent aux États-Unis dans la thérapie génique liée à la perte d'audition. Ou encore on peut citer une société qui a annoncé aujourd'hui de très bons résultats qui s'appelle Osée Immuno dans le cancer, plus précisément dans le cancer du poumon. Donc on peut voir que voilà, il peut y avoir aussi un rattrapage, mais aussi une stratégie de stock picking, puisque depuis le début de l'année, malgré cet environnement, on va dire, boursier défavorable, certaines sociétés ont pu tirer leur épingle du jeu. Je pense notamment à quatre sociétés, Visiomed, par exemple, qui a recentré ses activités et qui prend 380% depuis le début de l'année. Une autre société, cette fois une biotech qui s'appelle Oncodesign, qui a annoncé une scission de ses activités services et R&D, qui prend plus de 50% depuis le début de l'année. Une autre biotech, donc Acticor, qui a annoncé de bons résultats dans l'AVC et qui prend plus de 20% depuis le début de l'année, ou encore une medtech, Amplitude Surgical, qui prend plus de 30% depuis le début de l'année suite à on va dire, une bonne orientation de son activité. Donc la stratégie de stock picking, malgré tout, peut fonctionner sur certains dossiers.
Oui, et des thématiques particulièrement chéries par les investisseurs dans cet univers biotech. Vous parliez des nombreuses fusions-acquisitions, vous en trouvez, vous en voyez, vous voyez un appétit sur des thématiques médicales précises.
Alors, c'est vrai que dans l'innovation médicale, souvent, on fonctionne par vague d'innovation. Et ce qu'on observe depuis un certain nombre d'années, c'est que dans l'oncologie, les maladies rares et très récemment dans le système nerveux central, on observe de gros investissements de la part des industriels de la pharma. Et donc, cette année, par exemple, on a eu beaucoup de mouvements. Alors, on le voit en Europe et aux États-Unis, où déjà on atteint un niveau record en termes de transactions, puisqu'on en est à 25 depuis le début de l'année. Ça n'a jamais été vu au cours des 15 dernières années. Avec des primes très significatives, puisqu'on est à plus 85% en moyenne en primes par rapport à une moyenne historique de 60%. Et d'ailleurs, on a pu voir au début du mois une société dans l'oncologie qui se fait racheter avec un premium de 700%, donc c'est quand même ultra significatif. Malgré cela, on voit quand même une baisse en termes de montant. Cette année, on a 35 milliards de dollars, alors que d'habitude, à la même époque, on a 85 milliards de dollars.
Ah oui.
Cela s'explique aussi par le fait de la dégringolade par rapport à l'année 2021, qui était une année exceptionnelle, et aussi par des transactions supérieures à 10 milliards de dollars qui n'ont pas été annoncées depuis le début de l'année. En France, on voit aussi ce mouvement. Ce phénomène est apparu. On l'a vu avec Oncodesign, par exemple, avec une prise de participation d'un fonds d'investissement et la scission de ses activités. On l'a vu aussi avec le rachat de Teradiag, une boîte de diagnostic rachetée par Biosynex, une autre société cotée, avec une prime de 60%. Et on a vu aussi Genfit, qui a fait d'acquisition d'une société qui s'appelle Versantis dans le domaine des maladies liées au foie. Donc ce phénomène, on va dire, de mouvement M&A touche aussi la France qui n'est pas épargnée.
Oui, et alors c'est très intéressant, là, vous nous proposez un paysage global des biotech, et même si les performances boursières depuis le début de l'année sont extrêmement défavorables, on voit que l'appétit autour de la thématique se confirme, surtout après un tel repli boursier. Voilà, les valorisations sont d'autant plus attractives pour ceux qui estiment que telle ou telle biotech est intéressante parce que bien structurée, parce que sur le développement d'une solution médicale prometteur. Quelle biotech est-ce que vous recommandez ou à défaut de le recommander, est-ce que vous estimez que certaines biotech peuvent aujourd'hui, pour les investisseurs qui cherchent des idées de diversification, quelle biotech est-ce que vous estimez pouvoir mettre en avant aujourd'hui, mettre sur la table et pourquoi pas pour aller au bout conseiller éventuellement, pour ceux qui veulent vraiment ultra diversifier leur portefeuille boursier?
Alors, je pense que déjà, c'est intéressant de s'intéresser justement au secteur, au regard du fait qu'on a perdu quand même près de 60% depuis le pic. On est sur certaines sociétés qui valent leur cash, alors que dans leur pipeline, on a quand même, globalement, hein, en France, sur l'aspect coté, où on a 40 sociétés, on a 200 programmes de développement. Ça va dépendre évidemment du parcours boursier des grands indices, mais je pense qu'on n'est pas loin du point bas de bear market et que c'est intéressant pour un investisseur qui veut se diversifier d'avoir une poche de risque. À savoir, les biotech représentent cette poche de risque puisqu'elles peuvent représenter quand même des opportunités d'investissement assez significatives. Alors, ce qu'on regarde nous particulièrement dans le secteur, c'est le news flow. Le news flow apporte de la visibilité. Et lorsqu'on regarde et on a étudié un petit peu le news flow qu'on peut attendre d'ici la fin de l'année sur l'univers français en biotech, on se rend compte qu'on a 15 études cliniques qui vont être publiées d'ici la fin de l'année. On revient dessus d'ailleurs dans notre site, sur notre site, avec un rapport dédié sur notre site Biomed Impact, où on balaye en revue une dizaine de sociétés qui vont faire des annonces d'ici la fin de l'année. Alors, il y en a deux d'entre elles où les investisseurs savent qu'il y aura des résultats cliniques le mois prochain. Donc, il y a tout d'abord Nicox, et je vais présenter ensuite Quantum Genomics. Donc, Nicox va présenter des résultats de phase 3 dans glaucome, son NCX470. Donc, c'est dans le courant du mois de novembre, on ne sait pas encore quand, mais ces résultats seront attendus par les investisseurs. Et aussi une autre société qui s'appelle Quantum Genomics, qui, elle, opère dans les maladies cardiovasculaires. La société présentera des résultats de phase 3 dans l'hypertension artérielle, son étude fraîche, prévue pour le 7 novembre, lors d'un congrès qui s'appelle l'AHA, l'American Heart Association. Donc, on sait exactement la date, et ce sont donc deux sociétés, je pense, à regarder lorsqu'on veut s'intéresser au secteur.
On peut rappeler leur nom, Quantum Genomics, d'une part, et Nicox, d'autre part, sur lesquels on aura des résultats donc cliniques de phase 3 pour les deux.
De phase 3 pour les deux,
très
exactement.
Important.
Très important. Alors après, charge à l'investisseur d'étudier, évidemment, d'un point de vue fondamental,
c'est risqué, attention,
ces sociétés-là, avant d'intervenir. Mais on sait en tout cas qu'il y aura des annonces importantes.
À suivre dans les prochaines semaines, et vous nous avez apporté un coup d'avance. Voilà, pour ceux qui s'intéressent à cette thématique, on rappelle, thématique ultra volatile, et si vous y investissez, c'est vraiment dans l'idée de diversifier vos portefeuilles. Ne surtout pas mettre tous vos œufs dans ce panier très très volatile. Merci beaucoup, Sacha, de nous avoir accompagnés aujourd'hui, nous avoir apporté ce coup d'avance sur les grandes publications à venir dans l'univers biotech, les valeurs éventuellement prometteuses pour la suite, et vraiment on souligne 12 fois éventuellement. Vous êtes directeur associé de Biomed Impact. Bon retour, Sacha, à bientôt. Le CAC 40 est toujours en repli. Dans un instant, on va parler de ce CAC, on va parler de Wall Street qui finalement progresse après les propos de plusieurs membres de la Fed dans Wall Street Journal, des propos qui laisse augurer peut-être d'un adoucissement futur du resserrement monétaire. En tout cas, du côté des obligations américaines, on voit une petite détente du 10 ans américain qui repasse sous les 4,3%. Ça reste quand même bien tendu. On en parle avec, dans un instant, nos experts, bien sûr, nos experts de marché, depuis Oddo BHF, Michael Jacobi. Puis juste après, on parlera aussi des cryptos, les pros des cryptos, comme chaque vendredi. À tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. BFM Business. Vos placements, nos conseils. BFM Bourse. Guillaume Sommerer.
Dans un instant, les pros des cryptos, comme chaque vendredi. D'abord, un nouveau coup d'œil à la séance du jour. Mickaël Jacobi avec nous depuis Oddo BHF. Bonjour Mickaël.
Oula. Bonjour.
On entend les bruits de votre salle de marché. On rassure tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Voilà, c'est pas Tex Avery, c'est bien Mickaël Jacobi en direct. Mickaël, donc, le CAC 40 est en repli assez net pour cette séance des trois sorcières. Moins 1,1%.
Oui, absolument. Et on a vu le volume s'est effectivement accéléré depuis ce matin. Hein. Donc, comme vous le dites, c'est une séance d'expiration, notamment aux US, assez technique, donc avec un volume qui s'accélère et qui ira voir des plus hauts en fin de séance aujourd'hui. On est face à des marchés très très nerveux. Hein. On avait entamé la séance assez fortement dans le rouge à la suite de résultats. Résultat, on va dire, soit en demi-teinte, soit effectivement dans une attitude de prise de bénéfice, même lorsque les résultats étaient bons. On a vu les États-Unis, donc les marchés US, ouvrir cet après-midi plutôt dans le vert. Ça s'oriente plutôt vers un marché étal, avec également un bon nombre de gadins et de bonnes performances. Mais aujourd'hui, alors qu'on est vraiment focusé sur les valeurs qui publient, on a en tête les augmentations de taux dans un contexte donc d'inflation et de récession qui reprennent le devant et qui augmentent un tout petit peu l'aversion au risque.
En effet, ce 10 ans américain qui est passé tout à l'heure au-dessus des 4,3% pour la première fois depuis 14 ans, le 10 ans allemand à 2,5% pour la première fois depuis 2011, alors que le Parlement allemand a aujourd'hui validé le plan énergie à 200 milliards d'euros. Et puis on voit le 10 ans italien qui se tend aussi comme les autres taux, hein, mais c'est à noter dans la mesure où Giorgia Meloni va devenir première ministre. Elle a rencontré tout à l'heure le président italien Sergio Mattarella et elle se dit désormais prête à former son gouvernement. Giorgia Meloni, on va suivre ça de très près, mais 10 ans italien là est à 4,8%. Puis du côté du Royaume-Uni, Liz Truss a démissionné hier. Alors hier, c'est passé crème hein, sur le marché. Pas de réaction à cette démission. Aujourd'hui, on voit un retour des tensions. La devise britannique recule face au dollar, mais aussi face aux autres grandes devises. Beaucoup de publications. L'Oréal et Lanterne Rouge aujourd'hui, Mickaël, moins 5% avec une tendance des consommateurs, nous dit L'Oréal, à se reconcentrer sur la grande consommation face aux hausses de prix plutôt que sur les produits haut de gamme. Mais ça pèse sur L'Oréal puisque les marges sont sur les produits haut de gamme. L'Oréal recule de plus de 5%. On a aussi Essilor Luxottica qui a publié. Et puis Kering qui déçoit un tout petit peu, trop grande exposition à Gucci qui déçoit pour le coup. Et Kering qui recule de un peu plus de 3%. Quel regard portez-vous rapidement, Mickaël, sur ces publications et la façon dont les marchés y réagissent?
Alors clairement, on voit dans des publications qui, alors n'oublions pas, hein, L'Oréal a quand même publié des chiffres qui sont extrêmement forts hein, pour un troisième trimestre. Et effectivement, on est un peu plus tangant sur le luxe. C'est un petit peu la même histoire chez Kering avec Gucci qui est relativement faible. Mais effectivement, les investisseurs aujourd'hui ont plutôt une aversion au risque et donc préfèrent vendre sur une bonne nouvelle, sur de bons chiffres et surtout sur des perspectives qui deviennent de plus incertaines dans un contexte d'inflation et donc d'une dépense de consommateurs qui sera probablement en berne sur le prochain trimestre.
Merci Mickaël Jacobi en direct avec nous depuis Oddo BHF. On viendra analyser encore un peu plus ces publications tout à l'heure avec nos experts autour de la clôture des marchés. Et puis notez que Snap aux États-Unis souffre énormément. Après la plus faible croissance de son chiffre d'affaires depuis 2017, depuis son introduction en bourse, Snap plonge littéralement. Aujourd'hui, le titre abandonne 30%, rien que ça, et ça met un peu de pression sur les autres réseaux sociaux qui risquent d'avoir du mal aussi à attirer l'investissement publicitaire en face de ralentissement économique. La semaine prochaine, Meta publiera. Ce sera le cas aussi d'Alphabet, la maison mère de Google. Et on imagine donc la pression sur ces deux groupes à quelques jours de leur publication, alors que Snap donc est vraiment dans la cible des investisseurs, moins 29% en ce moment à Wall Street, dans une tendance haussière là-bas, puisque le S&P, lui, gagne 0,3%. Merci donc Mickaël Jacobi en direct avec nous depuis Oddo BHF.
Votre rendez-vous avec Phil Mining, plateforme française spécialisée dans les investissements et placements en crypto-monnaie.
BFM Business, BFM Crypto, les pros.
L'avenir est le seul endroit où l'on est tous certains de passer le restant de nos jours et les blockchains, bien sûr, contiennent une fraction de cet avenir. Les blockchains et les cryptos ont leur rendez-vous chaque semaine le vendredi, les pros des cryptos. Claire Balva nous rejoint. Bonjour Claire.
Bonjour Guillaume.
Experte crypto indépendante. Owen Simonin. Bonjour Owen.
Bonjour.
Sa chaîne YouTube Hasher est à la tête de Just Mining. Vincent Gann avec nous aussi. Bonjour Vincent.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
Ravi de vous retrouver, Vincent Gann, analyste technique. L'ancien record historique du Bitcoin, Vincent, fête bientôt, c'est un an de décroissance, puisque le Bitcoin depuis a perdu 72%. Le même repli d'ailleurs que le point bas du choc boursier de la crise sanitaire Covid. Est-ce un argument, d'après vous, Vincent, un argument pour défendre l'idée que le Bitcoin est désormais survendu?
Effectivement, Guillaume, bonne question, vous l'avez bien identifié. Ça fait un an, alors c'était le 20 octobre dernier, et ensuite il y a eu le 8 novembre 2021, c'est cet intervalle où le marché a tutoyé les 66 000 $, 70 000 $, ça fait rêver, ça doit faire rêver les auditeurs en tout cas ceux qui attendent la reprise du grand marché aussi. Mais en fait, je pense que derrière votre question, Guillaume, se cache la question suivante, le cours du Bitcoin est-il maintenant survendu après cette année de grand marché baissier? Alors il y a des façons traditionnelles de répondre, du type, le cours du Bitcoin est-il survendu? C'est aussi la question de savoir si le dollar américain est suracheté, si les taux d'intérêt sont surétendus à la hausse, si le marché action est survendu. Ça, c'est la façon classique. On peut maintenant s'intéresser à des indicateurs, comment j'appelle, d'infrastructure du marché crypto. Alors j'en suis toute une quantité, et là, je n'ai pas le temps d'antenne pour tous vous les présenter, mais un m'intéresse, et vous l'avez mentionné en partie. À savoir, j'ai étudié donc les grands marchés baissiers du cours du Bitcoin depuis 13 ans. Il n'y a pas un historique de cours non plus d'un siècle, mais 13 ans, il y a quand même quelques occurrences. Et ce que l'on observe, ce que l'on peut regarder, c'est ce qui a été baisse nécessaire, comme pourcentage de baisse nécessaire depuis l'ancien record historique pour stabiliser le marché. Alors, il y a eu un grand renversement aussi en novembre 2011, en 2015, en 2018. En mars 2020, vous l'avez précisé, c'était le point bas du choc boursier de la crise sanitaire. Mars 2020, à cette époque, le marché avait perdu 72% depuis son record historique. Et bien là, donc, je m'adresse à tous les auditeurs, sachez qu'au prix actuel, à 19 000 $ au cours du Bitcoin, le marché perd 72% depuis son ancien record historique, qui était donc à peu près environ un an. Donc ça, c'est des éléments intéressants. Ça ne veut pas dire que le marché là est en train de faire son point bas, mais ça vient renforcer cette zone d'intérêt qui est les 19 000 $ et qui correspond, d'un point de vue chartiste, à l'ancien sommet, celui de la bulle spéculative qui s'était terminée fin 2017. En tout cas, c'est un des arguments que peuvent utiliser ceux qui pensent que le point bas est en train d'être fait sur les 19 000 $. Et je ne dis pas que le point bas est en train d'être fait sur les 19 000 $. Malheureusement, je n'en sais rien.
Et Vincent, vous m'expliquiez hors antenne que la semaine prochaine, le Bitcoin va se dévoiler. Il va enfin choisir sa tendance de fin d'année. Oui. Est-ce que vous pouvez le redire pour nos auditeurs, ça, nous réexpliquer?
Oui, alors on a le sentiment, j'ai tendance à dire que toutes les semaines sont décisives, puisque chaque semaine, on a des données fondamentales qui influencent l'aspect cross-asset, on va dire toutes les autres classes d'actifs qui ont des influences du fait de corrélation sur le cours du Bitcoin. Mais certains diront que je dis que chaque semaine est décisive. La semaine prochaine l'est peut-être encore plus, la semaine décisive, des semaines décisives, puisqu'effectivement, on a tout. Des indicateurs économiques avancés, une décision de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, les chiffres de l'inflation au mois de mars, des résultats d'entreprise importants, mais au fond, la donnée supérieure, la seule qui compte au fond, c'est celle de l'inflation. Il faut briser l'inflation dans sa tendance haussière. Tant que ce n'est pas le cas, le marché crypto ne fera pas son point bas. Voilà pourquoi la semaine prochaine est importante.
Avec l'inflation d'octobre également, en effet. Merci beaucoup Vincent Gann, en direct avec nous, analyste technique. Cette semaine, on va parler avec Owen Leclerc, on va parler des exchanges centralisés, notamment Binance. Quand vous détenez des crypto-actifs sur ces plateformes vont jouer le rôle des banques dans le monde traditionnel et donc sécuriser les cryptos pour vous. Pourquoi on en parle? Parce qu'un large transfert de tokens a eu lieu entre différents wallets de Binance, ce qui a soulevé une polémique, Owen. Que s'est-il passé et pourquoi y a-t-il polémique?
Cette polémique a fait beaucoup de bruit, mais c'est déjà plus un sujet finalement. Ce qui s'est passé, c'est que Binance a déplacé une grosse quantité de jetons, en l'occurrence 13 millions de tokens UNI, du token Uniswap, d'une de ses adresses à une autre. À ce moment-là, le CEO d'Uniswap a fait remarquer que Binance détenait 1,3% des jetons en circulation, soit 6% du pouvoir de vote, du pouvoir de gouvernance de la blockchain Uniswap. Bref, il y a déjà eu des discussions entre les deux, il y a eu une explication de Binance qui expliquait que le but n'était pas au contraire d'exercer ce droit de vote, mais simplement de réaliser un mouvement en interne pour diverses raisons, et ils ont visiblement trouvé un accord. Mais la vraie question qui se soulève, et qui intéresse tout le monde et qui devrait nous intéresser, c'est la question de la décentralisation. En réalité, il y a énormément d'organismes décentralisés, donc qui fonctionnent pas tout à fait comme des entreprises, puisque ce sont les utilisateurs, des gens comme vous et moi, qui achètent la crypto-monnaie, et donc qui ont le droit de vote, qui permet de voter pour ou contre le développement du projet dans une certaine direction. En l'occurrence, si on prend ces jetons et qu'on les dépose chez Binance ou dans n'importe quelle autre plateforme d'exchange centralisée, Ben, c'est plus nous qui pouvons exercer ce droit de vote. C'est la plateforme à qui nous avons donné le pouvoir de conservation de ces jetons. Alors, moralement, la plateforme ne se doit pas de voter, mais rien ne l'interdit. Il n'y a encore aucune loi qui cadre très précisément le fait qu'une plateforme à qui on confie nos crypto-monnaies n'a pas le droit d'exercer le pouvoir de gouvernance de cette crypto-monnaie pour ses fins personnelles. Mais en attendant, c'est une très bonne question qui se pose et il y a de plus en plus de demandes d'utilisateurs, du moins quand les utilisateurs commencent à comprendre l'intérêt d'un token de gouvernance, se dire « Ok, ben, je voudrais pouvoir voter même quand je dépose ma crypto-monnaie chez une plateforme d'exchange A ou une plateforme d'exchange B. » Donc attention au droit que vous donne ce jeton, puisque le droit, vous le déléguez peut-être quand vous déposez ce jeton sur une certaine plateforme.
C'est intéressant. Est-ce qu'à terme clair, les utilisateurs de ces plateformes, les utilisateurs donc des exchanges centralisés, pourront exercer directement sur ces exchanges leur droit de vote ?
Alors c'est possible. C'est même souhaitable, d'ailleurs, quand on écoute, par exemple, en l'occurrence, le patron d'Uniswap, qui ici suggère à Binance de permettre à ses utilisateurs de voter via la plateforme. Donc forcément, pour tous ces organismes décentralisés qui ont une gouvernance qui se fait via les jetons, ce serait très intéressant que les grandes plateformes d'échange permettent à leurs utilisateurs d'exercer la gouvernance directement par les plateformes. Maintenant, si on regarde un peu quand même comment ça se passe, aujourd'hui, les utilisateurs qui déposent leurs jetons sur ces plateformes, ils ne sont pas forcément tous extrêmement demandeurs de pouvoir voter avec ces jetons. Donc la demande aujourd'hui, elle est encore relativement faible pour exercer ce droit de vote. À voir aussi si le régulateur autoriserait ces plateformes à proposer cette fonctionnalité. Il y a des grands débats aujourd'hui sur la régulation avec MiCA. Est-ce que les plateformes seraient autorisées à faire ça ? À voir. Et puis, reste aussi la question de la faisabilité technique. Alors, ce qui serait possible pour ces plateformes, c'est d'avoir, par exemple, des sortes de pools d'adresses ou des adresses dédiées qui pourraient voter oui ou non en faveur de, voilà, sur des propositions de ces projets décentralisés. Donc, ça serait possible, mais ça serait pas non plus trivial. Donc, ces plateformes devraient engager quand même quelques frais pour développer ces fonctionnalités. Donc, le vrai sujet, c'est la demande des utilisateurs par rapport au coût en termes de fonctionnalités. Tant que la demande n'émane que des fameux organismes décentralisés, le rapport coût-bénéfice sera pas très favorable pour les plateformes. Ça pose en fait la question de la réintermédiation de tous ces systèmes de gouvernance.
Owen, est-ce que vous savez, Guillaume, quelle est la meilleure façon que personne ne vole les lunettes que vous avez posées sur la table juste ici ?
C'est de les casser, les rendre moches.
C'est de ne pas mettre les lunettes sur la table. Et c'est un gros dilemme dans le monde de la crypto-monnaie, car même si la plateforme laisse le choix à ses utilisateurs, tant que la plateforme détient les crypto-monnaies, elle peut techniquement voter à leur place. Et donc même si on laisse le choix aux utilisateurs, la vraie décentralisation de la blockchain voudrait que la plateforme ne puisse pas exercer la gouvernance au nom des utilisateurs. Mais ça, c'est encore un autre problème et ce sera un élargissement.
Et je pense qu'on aura le temps d'y revenir. Le lancement de nouvelles blockchains, on va aussi en parler de ce lancement de nouvelles blockchains parce que ça peut parfois s'avérer difficile et parfois la communauté crypto dénonce, critique ces nouvelles blockchains. C'était le cas de la blockchain Aptos cette semaine. Quels sont les principaux reproches adressés à Aptos, Claire ?
Oui, alors Aptos, c'est effectivement une nouvelle blockchain qui a été créée par deux anciens de Meta. Souvenez-vous de donc Meta, le groupe de Facebook qui avait lancé tout un projet qui s'appelle DM, pour lequel un nouveau langage de programmation avait été créé. Eh bien, ces deux anciens développeurs salariés de ce groupe qui ont participé à la création de cette nouvelle blockchain Aptos. Alors, Aptos, comme beaucoup de nouvelles blockchains, explique qu'ils sont meilleurs, c'est-à-dire que c'est plus sécurisé, c'est plus scalable, ça permet de créer plus d'applications, etc. Donc, c'est quand même une blockchain qui est globalement en concurrence avec les Ethereum, Solana et tout l'écosystème de ce qu'on appelle les blockchains dites programmables. Et donc, la première critique qu'on peut leur faire, c'est, écoutez, il y a déjà plein de blockchains programmables. Il y a déjà plein d'écosystèmes qui existent. Vous êtes en train de rajouter une blockchain, ce qu'on appelle un layer one, donc une couche basse protocolaire. Est-ce que c'est vraiment là la nécessité de l'écosystème aujourd'hui ? Maintenant, tous les reproches qui ont été faits sur Twitter tournent autour du fait que c'est une blockchain qui, aujourd'hui, dans la répartition des jetons, est relativement centralisée et concentre notamment beaucoup d'investisseurs. C'est le cas de Binance Labs, c'est le cas de FTX Ventures. Donc, il y a vraiment des gros VC, finalement, qui ont investi dans cette blockchain. Donc, certains parlent d'une blockchain à VC. Et puis d'autres critiquent certaines caractéristiques techniques qui sont avancées par le protocole, notamment la scalabilité, et qui disent, voilà, vous avancez tel chiffre, mais en réalité, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est plutôt un chiffre beaucoup plus bas, de l'ordre de 20-30 transactions par seconde. Donc tout est encore à prouver. Ils ont récolté quand même plus de 350 millions de dollars de la part de différents fonds. Mais voilà, la preuve technique reste encore à faire.
En effet, alors Aptos, ça signifie en grec ancien, regardez, du coup, lié, touché. Voilà. Et là, on touche du doigt, en l'occurrence, l'un des grands enjeux, l'un des grands défis pour les blockchains. C'est toujours ce même équilibre qu'il faut absolument essayer de trouver entre décentralisation, scalabilité, sécurité. Ce trilemme magique, ce triangle, non pas des Bermudes, mais ce triangle positif et vertueux. Est-ce qu'il existe un autre trilemme pour l'univers des stablecoins, en l'occurrence, Owen?
Tout à fait. Et pour le coup, on en revient quand même sur des concessions qui doivent se faire, un peu comme le premier triangle que vous avez donné sur les blockchains. Le triangle des stablecoins, aujourd'hui, le trilemme, c'est le PEG, naturellement, si c'est un stablecoin adossé au dollar, donc un jeton égale un dollar, on aimerait que son prix reste le plus proche du dollar possible. S'il tombe à 20, 30 ou 40% de la valeur d'un dollar, c'est un échec. C'est d'ailleurs la priorité dans les trois valeurs. Beaucoup de gens estiment qu'un stablecoin qui perd son PEG n'a plus d'intérêt du tout. La deuxième chose, ça va être la décentralisation. C'est-à-dire que ça peut être très bien, il y a énormément de gros stablecoins aujourd'hui qui ne le sont pas, comme l'USDC ou l'USDT, puisqu'ils ont dans un coffre en banque, théoriquement, la valeur du nombre de stablecoins émis. Donc si on veut proposer 1000 stablecoins sur la blockchain, on doit avoir l'équivalent d'une caution de 1000 dollars en banque, ce qui permet d'avoir un PEG parfait. Mais le problème, c'est que c'est centralisé, ce qui veut donc dire qu'on peut réguler l'entreprise, bloquer certaines transactions, et donc ça perd du goût de la décentralisation, de la liberté et le côté incensurable de la blockchain. Et donc son stablecoin dans notre portefeuille peut se retrouver gelé, bloqué, par exemple la volonté d'un régulateur. La dernière chose serait l'efficience du capital. Beaucoup de blockchains vont par exemple expliquer qu'on doit surcollatéraliser un stablecoin. Pour être sûr qu'un stablecoin à 1 dollar reste à 1 dollar, on devrait bloquer l'équivalent de 2 ou 3 dollars. Et donc, à ce moment-là, si on veut récupérer ses 3 dollars, on doit rendre le stablecoin garantissant ainsi sa stabilité et son paye. Mais à ce moment-là, on perd en efficience de capital. On doit bloquer 3 pour avoir 1. Et donc, le stablecoin le plus efficient possible serait un stablecoin qui nous demanderait de bloquer 1 pour pouvoir proposer 1. Et donc, c'est toujours pareil. Tout le monde essaye d'essayer de composer le plus décentralisé possible, mais avec un meilleur PEG, etc. Les stablecoins qui, selon beaucoup, se sont rapprochés le plus possible de ce triangle et de cette stabilité sont les stablecoins dits algorithmiques. Mais pour l'instant, il n'y a toujours pas de consensus là-dessus. Et l'un des plus gros, l'UST, a totalement perdu son PEG et est venu un petit peu éclater la légende des stablecoins algorithmiques. Mais en tout cas, il y a toujours une très grosse concurrence sur ce segment-là. Et naturellement, il y a encore des recherches. On en parlait sur les blockchains d'infrastructure avec Aptos qui se lance. Tout le monde, que ce soit les blockchains d'infrastructure ou encore les stablecoins, on n'a pas encore de standard parfait. Tout le monde essaye de se battre et tout le monde essaye de proposer un moteur infaillible. Mais pour l'instant, chacun essaye de proposer et d'améliorer certains axes en montrant les faiblesses des autres, ce qui crée un jeu de la concurrence plutôt sain, car de fil en aiguille, et plus on avance, plus on fait des échecs, plus on en tire des leçons et plus on avance vers des standards qui seront solides et utilisables.
C'est la quête d'un nombre d'or en quelque sorte. Voilà, les stablecoins en quête d'un nombre d'or, les blockchains d'infrastructure également en quête d'un nombre d'or. Alors les investisseurs, eux, ils espèrent un cours parfait ou un cours à fort potentiel sur les cryptos pour investir, retrouver un peu de potentiel quand même sur l'Ether, sur Bitcoin et le retour d'un bull run. Alors jusqu'ici, on va en parler, jusqu'ici le marché crypto a vécu de cycles rythmés par les halvings. Est-ce que vous pourriez nous expliquer l'un et l'autre ce qu'est un halving et pourquoi le Bitcoin, Claire, pourquoi le Bitcoin a tendance à devenir haussier suite à un halving ?
Alors, vous savez que l'émission monétaire de Bitcoin, elle est transparente et elle est programmée dans le protocole Bitcoin. Et donc, on a à chaque nouveau bloc de transaction Bitcoin, un certain nombre de Bitcoins qui sont créés et qui servent d'ailleurs à rémunérer les mineurs. Et donc, ces Bitcoins qui sont nouvellement créés, en ce moment, c'est 6,25 Bitcoins par bloc. Et ce montant, il est divisé par deux tous les 4 ans. Donc en ce moment, c'est 6,25 par bloc. Mais il y a 3 ans, 4 ans, c'était 12,5 bitcoins par bloc. Avant ça, c'était 25. Avant ça, c'était 50. Et donc l'émission monétaire de Bitcoin, elle décroît petit à petit avec le temps, si bien qu'on sait quand sera émis le dernier Bitcoin, en 2140. Et donc tous les 4 ans, il y a cette espèce de division par deux. On appelle donc le halving, qui veut dire cette fameuse division, enfin c'est un mot anglais qui veut dire division par deux. Et donc tous les 4 ans, on a cette chute dans l'offre de Bitcoin qui crée forcément des mouvements sur les cours, puisque d'un coup on a moins de Bitcoin émis, alors que la demande de Bitcoin, elle continue à faire son chemin. Et donc le prix du Bitcoin, qui est encore une fois fonction de l'offre et de la demande, lui augmente de manière assez significative tous les 4 ans. D'où ces fameux mouvements de cours qu'on voit. Alors il faut quand même relativiser parce qu'on a l'impression que les halvings sont de plus en plus impressionnants. Parce qu'on a ces mouvements qui sont en valeur absolue de plus en plus impressionnants. En réalité, en valeur relative, c'est de moins en moins impressionnant. C'est-à-dire que En 2013, quand Bitcoin était monté jusqu'à 1 000 $, c'était extrêmement impressionnant parce qu'à l'époque, le Bitcoin ne valait quasiment rien. Là, on a un Bitcoin qui a atteint quasiment les 60 000 $, mais finalement, on n'a pas eu le même multiplicateur que ce qu'on avait en 2013 ou en 2017.
Oui, et historiquement, donc, les halvings ont entraîné des mouvements haussiers sur le Bitcoin. On rappelle néanmoins à tous ceux qui nous suivent que les performances passées ne présagent pas des performances à venir, bien évidemment. Le prochain halving est prévu en 2024, Owen. Est-ce que ce prochain halving pourrait être différent des précédents ?
C'est la question qui se pose tout le temps. C'est vraiment, vraiment une question qui revient par beaucoup de monde et c'est un sujet qui est super intéressant. C'est possible, mais encore une fois, impossible de le définir en amont. Tout ce que l'on sait, c'est que jusqu'à présent, les cycles de Bitcoin font que le multiple est de moins en moins gros. Pourquoi ? Parce qu'il y a de plus en plus de volume et que le Bitcoin a de plus en plus de vélocité. Naturellement, plus il y a de volume, plus il y a de vélocité, plus un acteur, en achetant ou en vendant, va moins exercer de pression sur l'offre et la demande et donc faire bouger le cours. C'est ce que nous a expliqué Claire. Le dernier top de Bitcoin en 2017, c'était 20 000 $. Là, on l'a vu monter à 67 000, on parle d'un x3. En 2013, il a quitté quelques dizaines de dollars pour aller taper les 1 200 $ pour la première fois. Là, c'était encore plus impressionnant. Donc, théoriquement, sa volatilité est en train de se calmer. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas reprendre de la valeur. Ça veut dire que ça devrait être moins impressionnant. Encore une fois, il y a toujours plein de théories. Il y a ceux qui disent « oui, mais pour la première fois, c'est régulé ». Il peut y avoir la finance traditionnelle qui, elle, peut amener de la liquidité qui est impressionnante. Oui, et là, on commence à spéculer. Sur le quand, le pourquoi, le comment, tout ce que l'on sait, c'est que naturellement, il y a des nouveaux paramètres, il y a de nouveaux investisseurs, il y a un nouveau contexte de marché qui fait que naturellement, ça va mettre une pression plus ou moins importante sur le Bitcoin. On sait qu'il est également indexé aujourd'hui aux valeurs technologiques, au Nasdaq par exemple. Mais le Bitcoin, à la base, a été créé sur des fondements d'une crise, celle de la crise de 2008. Certains disent que Bitcoin pourrait se décorréler, notamment lors d'une crise énorme de la finance traditionnelle qui pourrait être bien plus grosse que celle qu'on a connue en 2008. Et là, j'emprunte les mots d'autres personnes qui font un parallèle avec ce qui pourrait nous arriver, parce qu'on a un gros manque de visibilité sur 2023 et 2024. Et certains pourraient dire que les crypto-monnaies pourraient à ce moment-là se décorréler et finalement occuper la place qu'elles avaient promise d'occuper, une valeur refuge contre certains abus de la finance traditionnelle. Encore une fois, vous dire ce qui va se passer, malheureusement, je n'ai pas de boule de cristal et j'en cherche une. Mais il y a de grandes chances que nos yeux pour observer tout ce qui va arriver et pour patienter et se préparer à cette évolution des cours.
Bon, et pendant ce temps, Sam Bankman-Fried, le patron de FTX, publie sur Twitter un manuel pour les régulateurs sur la crypto-monnaie. Est-ce que vous l'achetez, ce manuel ? Est-ce qu'il vous plaît, Owen ? Qu'est-ce que vous retenez ?
C'est très compliqué, c'est la guerre. Je vous jure, j'ai l'impression qu'on a tiré l'anneau au milieu des terres et que tout le monde est en train de se battre pour dire c'est une bonne, c'est une mauvaise idée, d'accord, pas d'accord. La communauté crypto semble globalement contre cette idée. Sam Bankman-Fried, président d'Alameda Research, qui a fondé FTX, l'un des plus gros échanges de crypto-monnaies après Binance, propose aujourd'hui un manuel pour réguler les crypto-monnaies. Le problème, c'est que beaucoup de personnes du monde de la finance décentralisée se voudraient libres. Naturellement, incensurable. Et le fait que tout le monde doit pouvoir accéder à des plateformes sans certaines couches de régulation, tout du moins. En l'occurrence, il propose un certain nombre de libertés sur la finance décentralisée, comme quoi le code doit rester libre, n'importe qui doit pouvoir faire des échanges de particulier à particulier de façon totalement libre. Mais à partir du moment où on propose une application décentralisée, si on propose ce que l'on appelle un front-end, c'est-à-dire une plateforme un petit peu plus, on va dire, user-friendly, un petit peu plus simple que le code en brut, à ce moment-là, il faudrait réguler le front-end. Et donc, à ce moment-là, même si c'est une application décentralisée, la personne qui essaye de mettre ça en œuvre simplement pour rendre l'accès facile à monsieur tout le monde se devrait d'avoir une licence, par exemple. Évidemment, sa proposition est beaucoup plus complexe, mais je vous la résume rapidement. Et là, le monde de la finance décentralisée s'acharne sur lui en disant « c'est une aberration ». Et c'est vrai que c'est beaucoup moins libre que ce qui est aujourd'hui existant dans le monde de la crypto-monnaie. Et ce serait proposer encore plus de contrôle aux régulateurs sur ce monde très libre qu'est celui de la finance décentralisée. En attendant, Sam Bankman répond sur les réseaux et dit « oui, mais même si ce que je vous propose est moins intéressant que la réalité de la finance décentralisée aujourd'hui, c'est sûrement bien plus intéressant et bien plus libre que ce que nous proposeront les gouvernements et les régulateurs si nous ne faisons rien. » Et on en arrive au fameux dilemme du compromis. Quand on a créé notre holding avec mon frère, nos deux avocats respectifs nous ont dit « c'est très important qu'il y en ait un des deux qui ait plus de part que l'autre ». Et je dis, mais si c'est lui qui a une mauvaise idée, je veux avoir plus de parts. Je ne veux absolument pas qu'il puisse prendre une décision. Ils font, non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'immobilisme peut tuer une boîte. Vaut mieux des fois laisser une mauvaise idée aller au bout, plutôt qu'un silence qui fait que parce que vous avez 50-50, personne n'avance. Là, le gros problème, il n'y a pas de solution parfaite. c'est le fait justement qu'on doit laisser et accepter des compromis, et c'est ce qui crée beaucoup de discorde.
Ce manuel pour les régulateurs sur la crypto-monnaie de Sam Bankman-Fried, le CEO de FTX, sur les stablecoins, il dit des choses aussi intéressantes, Claire ?
Oui, alors il dit, il souligne ce qui est déjà une bonne pratique sur le marché, c'est la nécessité pour les stablecoins d'être réellement backés par du dollar, en tout cas pour les stablecoins qui se veulent indexés au dollar. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le régulateur n'oblige pas encore les émetteurs de stablecoins à être backés sur du dollar. Alors c'est en train d'arriver, un peu, on le voit avec Mika, mais ce n'est pas encore le cas. Et donc une des bonnes pratiques du marché pour ces émetteurs de stablecoins, c'est d'avoir des réserves dans un compte en banque ou dans divers produits financiers et de faire des audits. C'est-à-dire que tous les mois, ou toutes les semaines, ou tous les trimestres, vous allez publier des rapports d'audit qui vont indiquer que vous avez bien autant dans le compte bancaire, si je schématise, que de jetons que vous émettez sur la blockchain. Et donc, effectivement, il préconise de mettre dans la loi, finalement, cette bonne pratique du marché. Alors, il occulte quand même tous les stablecoins décentralisés ou tous les stablecoins qui ne sont pas backés par de la monnaie. Donc c'est un peu étonnant quand même quand on lit ça.
Il y a un trou dans la raquette.
En fait, ce qu'il dit, c'est les stablecoins indexés sur le dollar doivent être backés par du dollar. Mais voilà, qu'est-ce qu'on fait du DAI, par exemple, qui est un stablecoin qui n'est pas backé par du dollar. Donc c'est un peu étonnant, venant d'un personnage comme lui, de ne considérer les stablecoins que finalement ce que sont l'USDC ou l'USDT.
Ce manuel à destination des régulateurs, Benjamin Franklin disait plutôt, écrivez quelque chose qui vaut la peine d'être lu ou faites quelque chose qui vaut la peine d'être écrit. Bien, lui, il a publié ce manuel à destination des régulateurs. Merci à tous les deux de l'avoir lu pour nous et de nous l'avoir décrypté. Claire Balva, analyste indépendante sur ce marché des cryptos. Owen Simonin, sa chaîne YouTube Asher. Just Mining, régulièrement, chaque vendredi, même à nos côtés également. Et Vincent Gann qui nous accompagne également chaque vendredi avec Xavier Fenot. Bonne fin de journée à tous les deux. Dans un instant, on va se reconnecter à la finance traditionnelle. Le CAC réaccélère à la baisse. Il est pile 17h. On abandonne 1,2%. À tout de suite.